Le journal, bonsoir Frédéric Barrère.
Bonsoir et bienvenue dans cette édition de 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information dans l'actualité ce soir. Et c'est l'image du jour qui a déclenché une grande émotion et la joie des Britanniques. La reine Elisabeth II a salué la foule depuis le balcon du palais de Buckingham au dernier jour de son jubilé. God Save the Queen pour Elisabeth II dans une magnifique tenue verte accompagnée de ses héritiers Charles et William avec épouse et enfants. Nous irons à Londres dans ce journal. L'actualité en France avec le trafic des trains toujours très perturbé, Gare du Nord à Paris jusqu'à la fin de la soirée, indique la SNCF. La circulation des trains a été interrompue à cause d'un problème d'alimentation électrique et ça tombe mal en plein week-end de Pentecôte. Nous serons Gare du Nord dans un instant. Le lourd bilan des intempéries et des orages hier et la nuit dernière, un mort, une femme de 30 ans et 15 blessés, deux graves, dont un enfant de 13 ans. Les dégâts sont considérables. Dans l'actualité à l'étranger, une nouvelle fusillade aux États-Unis à Philadelphie a fait 3 morts et 11 blessés. Et à Moscou, la menace de Vladimir Poutine. Après les bombardements aujourd'hui sur Kiev, de nouvelles cibles seront visées si les livraisons d'armes à l'Ukraine continuent. Et puis, rendez-vous important avec le Livre Inter. Le nom du lauréat sera dévoilé demain matin. Le jury délibère en ce moment. La page sport de ce journal, incroyable Raphaël Nadal qui remporte son 14e tournoi de Roland-Garros.
Pour moi, c'est incroyable de jouer ici avec un soutien incroyable de vous. Pour moi, c'est très très joli. Je vous dis merci beaucoup à tout le monde.
Raphaël Nadal au menu également du rugby, du football et du cyclisme féminin. La météo pour demain, encore quelques averses et du soleil aussi. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 19h30, les petits bateaux Noël Bréham.
Bonjour, je m'appelle Nino, j'ai 8 ans et je voudrais savoir comment nous pouvons savoir si l'eau est potable ou pas.
Les petits bateaux.
Merci de me répondre, au revoir.
On va te répondre, les petits bateaux à Post-Journal.
France Inter.
Trafic ferroviaire interrompu, Gare du Nord en plein week-end de Pentecôte. Une épreuve pour les voyageurs qui se retrouvent bloqués. Un défaut d'alimentation électrique à Saint-Denis est à l'origine du chaos sans que la SNCF puisse dire dans l'immédiat si cette panne électrique est liée aux forts orages d'hier. Eurostar a conseillé aujourd'hui vivement de ne pas voyager et de reporter à une autre date. Le trafic banlieue et grande ligne au départ et à l'arrivée de la gare a été interrompu plusieurs heures et il ne reprend que progressivement sur les grandes ligne depuis le milieu de l'après-midi. Une journée de pagaille à la gare du Nord, Faustine Calmel.
Après plus de 6 heures d'attente, Lisa grimpe dans un train bondé pour Calais.
J'avais mon TER à 9h30, sauf que directement, ça nous a décalé les horaires au fur et à mesure, sans trop nous prévenir. Une heure d'attente, puis 3 heures, puis train supprimé. Donc j'ai fini par en prendre un autre. A priori, il devrait partir, mais on est sûr de rien aujourd'hui.
15h40, son TER Hauts-de-France est effectivement un des premiers à repartir, plein à craquer, comme la file pour l'Eurostar près de laquelle patiente Alma. Son train était prévu à
12h13. Ils nous ont dit de rester en groupe pour qu'on puisse partir tous ensemble, mais on ne sait pas trop ce qu'il en est pour la suite, on ne sait pas à quelle heure on va partir. On n'a eu aucune information, pas de mail quand on est arrivé. On a vu que tous les trains étaient annulés. Il n'y avait qu'une seule dame là tout à l'heure pour donner à un paquet de gens des informations.
Eurostar qui conseille à ses passagers de reporter leur voyage. 3 trains ont été supprimés cet après-midi. Mais Nicolas espère encore dormir à Londres ce soir.
Les trains autour du nôtre sont annulés, mais le nôtre, il y a des délais, mais ce n'est pas annulé déjà. On espère prendre le train, surtout parce que c'est l'anniversaire de ma petite fille demain.
10 ans pour Stella qui aimerait vraiment être à la maison. La SNCF promet un retour à la normale dans la soirée.
Et la SNCF promet également des remboursements de 25 à 75% du prix des billets pour les retards et remboursements pour les trains supprimés. Le bilan de l'épisode orageux qui a traversé 65 départements. Le bilan humain d'abord à Rouen. Une femme de 30 ans a été retrouvée morte, emportée par une coulée de boue et noyée après avoir été coincée sous une voiture. 15 personnes ont également été blessées, dont 2 graves, parmi lesquelles un garçon de 13 ans qui se trouve dans un état critique. Les dégâts provoqués par les orages de grêle sont considérables. La FNSE parle d'un bilan catastrophique pour les agriculteurs. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, assure que l'État sera au rendez-vous.
Ce qu'on a, identifié, c'est d'ores et déjà des dégâts très importants sur la viticulture, l'arboriculture. Je pense à ce qui s'est passé dans le sud-ouest en particulier. La Normandie a été particulièrement touchée, une partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans certains secteurs localisés. C'est très vaste comme territoire et c'est à la fois et en même temps localisé dans les zones, parce qu'évidemment les phénomènes de grêle sont parfois très localisés. Donc on est en train, pour faire les choses sérieusement, de regarder territoire par territoire pour faire en sorte que très rapidement on puisse à la fois disposer du diagnostic et mettre en place les outils classiques. Et puis l'État a toujours été au rendez-vous. Je pense à l'épisode de gel de l'an dernier qui a nécessité la mobilisation de l'État, et l'État a été au rendez-vous. Donc il y a les dispositifs classiques et nous verrons en fonction des dégâts ce qu'il y a lieu de compléter.
Et Marc Fesneau doit se rendre demain en Gironde et dans le Gers où il devrait déclencher le dispositif de calamités agricoles dans l'Allier face aux dégâts. Gérald Darmanin annonce l'envoi de 70 personnes de la sécurité civile avec du matériel de pompage. Par ailleurs, 7000 foyers sont toujours privés d'électricité ce soir. L'actualité à l'étranger avec le jubilé de la reine Elisabeth, jour 4 des célébrations et dernier jour de fête au Royaume-Uni pour les 70 ans du règne d'Elisabeth II. Et aujourd'hui, pour la fin du jubilé, des pique-niques partout au Royaume-Uni et une parade grandiose à Londres où l'on retrouve notre correspondant Richard Place. Bonsoir Richard.
Bonsoir.
Fin de la parade, mais surtout Richard, la reine est apparue au balcon de Buckingham.
Oui, la rumeur a grimpé au fur et à mesure de la journée, puis le drapeau affirmant qu'elle se trouve à Buckingham a été hissé, et en toute fin de parade, elle est apparue sur ce balcon, comme elle l'avait fait jeudi au moment de Trooping the Colour, le défilé militaire. Elle est venue saluer cette foule ravie, radieuse, qui n'attendait que ça pour terminer ces 4 jours de festivités. La reine dans un ensemble vert jusqu'au chapeau, comme d'habitude, un vert entre gazon et émeraude. Il y a débat ici, entourée par la lignée, puisqu'il y avait à côté d'elle le prince Charles et le prince William, les deux futurs rois. La reine était bien là, 96 ans, pour saluer la foule, juste après la chanson entonnée par Ed Sheeran, et juste avant un très émouvant God Save the Queen, braillé littéralement par la foule, tellement ému de voir sa reine.
Alors auparavant, Richard, une parade extraordinaire avec un carrosse d'or et des corgis aussi, une parade très festive cet après-midi à Londres.
Oui, comme les Britanniques savent si bien le faire, ce carrosse de 260 ans d'âge dans lequel était montée Elisabeth II lors de son couronnement il y a 69 ans et à l'intérieur duquel se trouvait un hologramme de la reine de cette époque-là qui saluait donc la foule une première fois à ce moment-là en ouvrant ce défilé. Puis un peu plus tard, on a vu notre reine de près de 7 mètres de haut cette fois, une immense marionnette juchée sur un char suivie de corgis et de chevaux, ces animaux qu'elle aime tant. Bref, tout ça était très festif, très baroque, à la manière de ce que savent faire les Britanniques. Il y avait beaucoup de musique, il y avait de la musique militaire, il y a eu des cornemuses écossaises, du breakdance et de la pop. Tout ça avec une ambiance très festive, très joyeuse et des gens qui actuellement sont en train de rentrer chez eux, les étoiles plein les yeux.
Richard Place en direct de Londres avec Lucien Lefebvre. Merci à vous deux. À l'étranger, une nouvelle fusillade a ensanglanté hier soir les États-Unis. Plusieurs tireurs ont ouvert le feu sur la foule dans une rue bondée de Philadelphie. 3 personnes sont mortes, 11 autres ont été blessées et la police est à la recherche des tireurs toujours en fuite. Loïc Loury.
Comme tous les week-ends, des centaines de personnes profitaient de leur soirée à South Street, dans un quartier populaire et très animé de Philadelphie, lorsque la fusillade a éclaté. D'après la police, c'est un peu avant minuit que les premiers tirs ont retenti. Plusieurs assaillants ont ouvert le feu sur la foule sans motif apparent. L'un des officiers présents sur place a riposté, mais sans certitude d'avoir atteint les tireurs. Ces derniers auraient ensuite pris la fuite. Aucune arrestation n'a été annoncée à ce stade, laissant derrière eux 2 revolvers semi-automatiques et un chargeur haute capacité. Pour identifier les suspects, les enquêteurs devraient rapidement faire parler les caméras de surveillance des nombreux bars, restaurants et commerces alentours. Après Buffalo, Uvalde, Tulsa ou Racine, Philadelphie rejoint la liste des villes frappées ces dernières semaines par une fusillade de masse. Il y en a eu plus de 200, faisant au moins 4 morts à chaque fois depuis le début de l'année aux États-Unis. New York, Loïc Loury, France Inter.
En Ukraine, Kiev à nouveau bombardé ce matin, plusieurs frappes russes visant des infrastructures, des chemins de fer. Moscou affirme également avoir détruit des blindés fournis à l'Ukraine par les pays d'Europe de l'Est. Et le président russe Vladimir Poutine menace, aujourd'hui il menace, de viser de nouvelles cibles. Sur place à Moscou, Paul Gougaud.
Dans un entretien diffusé dimanche par la première chaîne russe, Vladimir Poutine a affirmé se tenir prêt à lancer de nouvelles frappes sur l'Ukraine, sur des sites qui n'ont pas encore été touchés, selon ses mots. Le chef du Kremlin justifie cette menace par les livraisons d'armes par l'Ouest à l'Ukraine, et notamment Washington, qui pourrait prochainement fournir des missiles à longue portée. D'après le président russe, cette aide militaire représente une tentative de faire durer le conflit le plus longtemps possible. Quelques heures avant la mise en ligne des passages clés de cette interview, plusieurs missiles russes ont frappé la capitale ukrainienne. Ces propos ont également été tenus alors que la Russie avance dans le Donbass avec une politique de terre brûlée face à une résistance ukrainienne plus importante qu'attendue par le Kremlin. C'est une conséquence de l'aide militaire reçue par l'Ukraine. Pour autant, Vladimir Poutine a tenu à se montrer peu impressionné face aux récentes livraisons de lance-roquettes américains. Selon lui, ces véhicules n'ont fait que remplacer des pertes ukrainiennes. Il s'est également vanté de casser les drones étrangers comme des noisettes grâce au système anti-aérien de son armée. Une façon de poser une ligne rouge tout en assurant être à même de continuer à mener cette offensive en Ukraine dans les semaines qui viennent. Moscou, Paul Gogo, France Inter.
Un rendez-vous à ne pas manquer sur France Inter demain matin. Le prix du livre Inter, on connaîtra le lauréat de l'édition 2022. Le nom du gagnant ou de la gagnante sera révélé dans la matinale par Delphine de Vigan, présidente de cette 48e édition avec Eva Bétan. Et en ce moment, les membres du jury sont réunis à la Maison de la Radio et de la Musique. Ils sont en train de délibérer. Bonsoir Alexandra Akoun.
Bonsoir.
Alors les délibérations sont toujours passionnées pour le livre Inter et vous y avez assisté.
Et elles ont vraiment débuté vers 16h30 dans la salle panoramique située au 22e étage de Radio France. 24 jurés de toute la France et accueillis par Eva Bétan.
Bonjour, je sais la vue est très attirante, mais venez d'abord par là. Vous vous appelez ?
Arthur, de Clauseau.
Oui, bien sûr, et vous venez d'où ?
J'arrive d'Ardèche.
Des jurés ultra préparés comme Marie-Hélène qui a tout de suite installé beaucoup de choses devant elle sur la table.
C'est tous mes cahiers. Bah oui, je voulais pas trimballer déjà mes 10 livres, hein, parce que c'est lourd hein, quand on vient du Nord. Hein. J'ai pris des notes au fur et à mesure. J'espère bien que le livre que j'ai choisi sera le livre Inter 2022, c'est clair.
Mais avant de se lancer, quelques dernières consignes.
Vous avez la liberté totale, mais la liberté, il faut la prendre. C'est ici et c'est maintenant et c'est tout de suite. Donc ce que vous avez à dire, vous le dites. Si vous devez vous battre pour un livre, vous vous battez. Vous écoutez aussi les autres, vous pouvez vous laisser convaincre. Il n'y a pas de critères, vous déterminerez vos critères.
Et c'était parti pour un premier tour de table pour faire part, comme Serge, de ses impressions.
J'étais un peu étonné de m'être mis dans cette situation de devoir lire des livres que j'avais pas choisis pour une date qui m'était imposée. Ce dont j'avais horreur quand j'étais au lycée, et j'avais peur de pas y arriver. Donc j'ai pris le gros pavé d'abord. J'ai du mal entre trois livres à mettre une hiérarchie. Ce que j'ai préféré...
Ah, ça c'est totalement secret, comme tout le reste hein, des délibérations. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça continue à batailler sec, mais la fumée blanche ne devrait plus trop tarder.
Et encore un peu de patience, le nom du gagnant du prix du livre Inter édition 2022 sera donc révélé demain matin dans la matinale de France Inter. On en vient maintenant à cette nouvelle étape dans la conquête spatiale de la Chine. Trois astronautes ont rejoint aujourd'hui le Palais Céleste. C'est le nom de la station spatiale que Pékin construit en orbite et qui devrait désormais être occupée en permanence. Depuis des décennies, la Chine investit des milliards d'euros dans son programme spatial. Alors en Chine, l'événement est d'importance. À Pékin, Stéphane Pombouin.
3, 2, 1, le décollage de la fusée Longue Marche a été diffusé en direct ce dimanche à la télévision. Signe que ce programme spatial géré par l'armée est l'une des fiertés du régime communiste. Pour les trois astronautes de la mission, il s'agit d'assembler les derniers modules de la station spatiale chinoise Tiangong, qui signifie « palais céleste » en mandarin. Chen Ting est l'un des ingénieurs de cette mission.
Il s'agit d'un moment très important. Un moment digne d'être célébré par tous les Chinois. J'ai participé des dizaines de fois à des missions de lancement dans l'espace. Je suis habitué à voir une mission réussie. Mais chaque lancement d'un vaisseau spatial habité me rend toujours très fier.
La Chine a été écartée par la NASA américaine de la Station spatiale internationale. Alors depuis bientôt 20 ans, elle envoie de son premier astronaute dans l'espace. Plus rien ne l'arrête. Avec des missions prévues vers Mars et Jupiter, cette station spatiale qui sera occupée désormais en permanence et même un programme de tourisme spatial. À Pékin, Stéphane Pambrin, France Inter.
Encore un mot en bref et en France, les trois policiers qui ont gravement blessé par balle deux personnes à Paris ont été placés en garde à vue. Les policiers à vélo ont blessé le conducteur et la passagère d'une voiture soupçonnée de vouloir échapper à un contrôle. L'état de santé de l'homme blessé au thorax s'est amélioré, mais la femme touchée à la tête se trouve toujours entre la vie et la mort. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une visant les policiers, l'autre visant les occupants de la voiture pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il est 19h14. La page sport de cette édition. Bonsoir Winnie Claret.
Bonsoir.
Et il faudra plus qu'une statue à Roland-Garros.
Raphaël Nadal, définitivement le patron de la Porte d'Auteuil. Il a fait chavirer une nouvelle fois le public de Roland-Garros. Le tennisman espagnol, trop fort pour le novice norvégien Casper Ruud, qui l'a battu en 3-7, 6-3, 6-3, 6-0. Bonjour Jean-Pierre Blimeau.
Bonsoir Winnie.
Raphaël Nadal soulève son 14e titre dans le majeur parisien.
Oui, pas vraiment de suspense dans cette finale dominée par Raphaël Nadal qui a très vite donné le tempo en prenant le service de son adversaire. Jamais en mesure de contester la supériorité du maître des lieux, sauf peut-être au début du deuxième set. Mais à l'image de Corey Gauff, balayé hier dans la finale dames Paris-Gasviatek, Casper Ruud n'a pas vraiment existé. Pouvait-il faire mieux face à Raphaël Nadal qui a retrouvé un trophée qu'il avait perdu l'an dernier, éliminé par Novak Djokovic en demi-finale. Le suspense de cette finale résidait aussi dans ce qu'allait dire l'Espagnol sur le podium. Son pied gauche douloureux le fait souffrir depuis plusieurs mois et même plusieurs années. Il l'avait handicapé dans sa préparation. Devant le public, pratiquement acquis à sa cause, le roi de la terre battue est resté évasif.
Je ne sais
pas ce qui va se passer à l'avenir, mais je vais continuer à me battre. Je vais essayer de continuer. Merci à tous.
Alors essayer, c'est le mot que l'on retiendra. Raphaël Nadal pourra-t-il encore aligner les titres également, notamment en Grand Chelem. Avec ce 22e succès dans les 4 tournois majeurs, il prend quelques distances avec ses deux grands rivaux pour devenir, une fois leur carrière terminée, le plus grand joueur de tous les temps. 22 victoires sur 30 finales disputées en Grand Chelem, 22 titres, c'est deux de mieux que Novak Djokovic et que Roger Federer, avec au passage ici à Roland-Garros une victoire en 3-7, 3 manches à 0 pour la 7e fois sur les 14 finales qu'il a disputées, avec aucune défaite sur la terre battue parisienne.
Jean-Pierre Blimois, Roland-Garros, des records et beaucoup d'émotions sur ce cours central cet après-midi. De l'émotion aussi ce matin grâce à la paire française Kristina Mladenovic et Caroline Garcia en finale du double dames. Elles ont renversé Coco Gauff, finaliste du simple, et Jessica Pegula en 3-7, 2-6, 6-3, 6-2.
Autre rendez-vous ce soir avec une soirée qui s'annonce très chaude sur les terrains de rugby.
Dernière journée de top 14 et des matchs couperés en pagaille pour savoir qui se fera sa place en phase finale, Vincent Pellegrini.
Rarement dernière journée du top 14 n'aura recelé autant d'incertitudes. Si Montpellier, Bordeaux, Bègles et Castres, les trois premiers du classement, ont leur billet en poche pour les phases finales, 6 autres équipes sont en lice pour les rejoindre. Preuve de la densité et de l'homogénéité de ce top 14, 2 rencontres retiennent particulièrement l'attention, 2 rencontres qui sont des matchs de phase finale, le Racing 92 face à Toulon et Lyon face à La Rochelle. Le vainqueur sera qualifié, le vaincu éliminé. Une semaine après avoir remporté les 2 Coupes d'Europe, Lyonnais et Rochelais s'offrent un deuxième match consécutif à haute intensité. Le Stade toulousain, tenant du titre, sort d'une saison délicate, mais il devrait se qualifier sans trop de frayeur. Les coéquipiers d'Antoine Dupont reçoivent le Biarritz Olympique, dernier et d'ores et déjà relégué en Pro D2.
On saura aussi qui de Brive ou de Perpignan devra passer par les barrages pour le maintien dans l'élite. Alors qu'à l'étage d'en dessous, Mont-de-Marsan et Bayonne s'affrontent en ce moment pour la montée en top 14. Pour l'instant, c'est Bayonne qui tient son ticket doré. L'Aviron mène 35-13 à la 63e minute de jeu.
Du football aussi au programme Winnie. L'équipe d'Ukraine est en mission en ce moment à Cardiff.
Après avoir ému tout un pays en battant l'Écosse mercredi 3-1, les Ukrainiens affrontent le Pays de Galles pour décrocher le dernier ticket européen pour la Coupe du Monde au Qatar fin novembre. Les Gallois sont devant pour l'instant 1-0, but contre son camp du milieu Andrei Yarmolenko à la demi-heure de jeu. La mission des Bleus, c'est de se rattraper après la défaite surprise contre le Danemark 2-1 vendredi au Stade de France. Ils affrontent la Croatie demain soir à Split pour la deuxième journée de Ligue des Nations, remake de la finale de la Coupe du Monde 2018 remportée par les Français 4-2 pour leur deuxième étoile. Le défenseur tricolore Presnel Kimpembe.
Forcément, ça va être aussi au mental. C'est pas facile de venir gagner ici. On connaît très bien la Croatie. C'est une grande nation du football avec de grands joueurs. On a fait un faux pas vendredi. Maintenant, on sait que va falloir tourner la page entre guillemets assez rapidement pour se focaliser sur ce match de la Croatie, parce que ça va pas être un match qui sera simple, mais ce sera une bonne bataille.
Presnel Kimpembe au micro de Xavier Monferrand. Cocorico en MotoGP. Fabio Quartararo a largement remporté le Grand Prix de Catalogne cet après-midi. Le Français d'Yamaha creuse l'écart en tête du championnat du monde. Son compatriote Johan Zarco termine 3e à Barcelone. Et puis en vélo, c'est le Belge Wout Van Aert qui l'emporte au sprint sur la première étape du Critérium du Dauphiné en Ardèche. Le Français Hugo Page est 4e.
Le vélo, justement, on va s'intéresser maintenant à la pratique féminine du cyclisme en France, en écho à un rendez-vous rendez-vous d'importance. L'été prochain, le Tour de France Femmes sera de retour sur le devant de la scène après des années d'absence. Le cyclisme féminin, un combat de longue haleine qui commence enfin à porter ses fruits. C'est le long format de ce soir, signé Fanny Lechevestrier.
J'aimerais bien que vous fassiez un ou deux tours, petit plateau, tout à droite.
Autour de l'hippodrome de Longchamp, aux portes de Paris, deux jeunes filles s'entraînent ce mercredi-là avec le maillot du CSM Puteau sur le dos, sous le regard de Raymond Plaza, éternel président du club à 90 ans, l'un des pionniers dans la féminisation du cyclisme.
Bah oui, on était les premiers dans l'Île-de-France à faire une équipe féminine. Ça va faire maintenant 4 ans, ça marchait.
Une évolution que l'ancien coureur professionnel constate tous les week-ends sur les courses.
Oui, oui, ça progresse. Parce que vous voyez, dimanche, on était à Saint-Nazaire et il y avait 200 filles. Et encore, ils ont refusé du monde. Hein, au début, on était 7 équipes. Dans notre catégorie, on est 14 équipes maintenant.
D'ailleurs, pour Elisa, 14 ans, et Liv, 9 ans, rien de plus normal que de faire du vélo en compétition. Même étonnée qu'il n'y ait pas encore plus de filles.
Bah, en fait, j'étais surtout surprise qu'il n'y en ait pas beaucoup. Il n'y en avait que deux il y a 2 ans.
En fait, mon frère en faisait et je m'ennuyais à le regarder. Et du coup, un jour, j'ai essayé, ça m'a plu. Du coup, bah, j'ai continué. J'aimerais bien devenir professionnelle.
Et des filles qui veulent en faire leur métier, il y en a de plus en plus. Acquiesce Nadège, leur entraîneur.
C'est un chamboulement de mœurs et puis elles ont envie et elles se battent comme des petites championnes et les garçons les intègrent complètement. La seule chose qu'on peut regretter, c'est que pas tous les clubs fassent de podium féminin ou ça, c'est des petites choses qui sont encore en train de changer.
Mais il faut se rappeler d'où on est parti avec encore ce genre de propos tenus à la télévision dans les années 80 et parfois de la part des plus grands champions français.
Et à côté des géants de la route, voici les mignonnes du bitume.
Je préfère ne pas voir une femme qui souffre sur un vélo.
Mais dans tous les sports, les femmes souffrent quand elles font un effort.
Oui, mais ça se voit beaucoup plus sur le vélo et pour moi, je trouve que c'est pas beau à voir.
Alors aujourd'hui, certes, il n'y a encore que 12 300 femmes sur les 106 000 licenciées en France. Mais les effectifs des clubs augmentent grâce aux filles et les actions se multiplient pour accroître encore la pratique, explique Mathilde Dupré, en charge du plan de féminisation au sein de la Fédération française de cyclisme.
Sinon, on ne peut pas se contenter de 12% de licenciés. On met en place des actions sur la partie développement de la pratique, sur le haut niveau, sur les dirigeantes aussi, parce que reste persuadé que plus on aura de femmes dans l'encadrement, plus on aura en fait de pratiquantes. Si on va attirer les femmes, c'est aussi par le sport loisir, le sport bien-être.
Et tous sont d'accord sur un point, le Tour de France va bien sûr permettre d'accélérer le processus.
Parce que ça va être une vitrine, parce qu'il y a des jeunes filles qui vont se dire, ah ben moi je veux faire comme elles. Et on va forcément attirer d'autres partenaires. Il ne faut pas se leurrer, sans argent, il n'y a pas d'action.
Raymond Plaza espère ainsi pouvoir lancer sa propre équipe féminine professionnelle avec le club de Puteaux dès 2024 et prendre part très vite au prochain Tour de France.
Le cyclisme féminin long format, signé Fanny Lechevestrier.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine et on ouvre l'agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient, comme tous les dimanches soirs. Et le temps fort la semaine prochaine, il sera politique et électoral avec le premier tour des législatives dimanche prochain. Dernière ligne droite pour les candidats et les partis avec une gauche à l'offensive. Mardi, Jean-Luc Mélenchon présente le programme économique de la NUP. Meeting de Fabien Roussel jeudi dans le Nord. L'agenda judiciaire est également très fourni la semaine prochaine avec mercredi le début du réquisitoire au procès des attentats du 13 novembre. Et en Suisse, toujours mercredi, le procès de Michel Platini qui comparaît dans une affaire de corruption présumée au plus haut sommet de la FIFA. Un procès qui pourrait clore une saga judiciaire entamée il y a plus de 6 ans. Jérémy Lanche.
Au cœur du dossier, il y a ces 2 millions de francs suisses que la FIFA a versés à Michel Platini en 2011, résultat de son travail de conseiller pour l'organisation, selon les termes d'un contrat oral qui aurait été conclu avec le patron de la FIFA à l'époque, Sepp Blatter, une version à laquelle ne croit pas le parquet suisse. Le ministère public accuse les deux hommes d'avoir escroqué la FIFA. La somme pourrait avoir servi à freiner les ambitions de Michel Platini, qui souhaitait se présenter à la tête de l'organisation contre Sepp Blatter. Les deux hommes encourent jusqu'à 5 ans de prison. Le verdict doit être rendu début juillet. Mais l'affaire Platini-Blatter n'est qu'une des nombreuses pièces du gigantesque puzzle de corruption à la FIFA et qui a vu son actuel président, Gianni Infantino, tomber lui aussi dans le collimateur de la justice suisse. Elle a d'ailleurs ouvert une procédure pénale à son encontre. À Genève, Jérémy Lanche, RFI pour France Inter.
A signalé également mardi une journée de mobilisation et de grève pour l'hôpital en pleine crise des urgences. Dans l'actualité également, la semaine prochaine, l'arrivée du relais jeune après avoir parcouru plus de 3000 kilomètres. Cette marche pour le climat arrive à Paris à la veille du premier tour des législatives. Un tour de France à pied et à vélo avec des jeunes engagés partout en France pour sonner l'alerte climatique et sociale. Pierre Taïeb, co-organisateur du relais jeune.
On ne parlait pas du tout dans le débat public d'environnement, de justice sociale et de démocratie, qui sont pourtant des choses qui déterminent notre avenir, notamment l'avenir de la jeunesse, mais en fait l'avenir de tout le monde sur cette planète. Et donc on était un peu désespérés face à ça et on s'est dit bah faut se mettre en mouvement. On organise cette marche de 3000 km à travers toute la France. On va dans 20 villes étapes pour organiser des événements. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on pourrait ressortir. Un des dénominateurs communs de tout ce qu'on a vu, c'est que beaucoup repose aujourd'hui sur la mobilisation citoyenne. Je pense notamment à Fos-sur-Mer, où il y a beaucoup d'associations qui militent pour comprendre pourquoi sur ce territoire, il y a un taux de cancer qui est deux fois supérieur à la moyenne nationale, un territoire qui est ultra industrialisé où il n'y a aucune transparence. La même chose à La Rochelle, sur les problématiques océanes, avec des associations comme Sea Shepherd, Wings of the Ocean, Bloom. Donc on voit partout que beaucoup repose sur la mobilisation citoyenne, mais aujourd'hui je crois que cette mobilisation citoyenne ne suffira pas, étant donné l'urgence, qu'on a besoin d'alliés, et notamment d'alliés dans les collectivités territoriales, dans la société civile, mais aussi au plus haut niveau de l'État, c'est indispensable il me semble.
Alors dites-moi, tout au long de ce parcours de ces villes-États, est-ce qu'il y a un lieu qui vous a paru particulièrement menacé et pour lequel il y a une urgence environnementale très forte?
Je pense qu'il y a eu beaucoup de lieux, là je parlais de Fos-sur-Mer, c'est un des lieux qui nous a beaucoup marqué parce que c'est vraiment un territoire sinistré, mais globalement on a beaucoup été au contact d'agriculteurs qui sont en transition, qui partent d'une agriculture intensive vers une agriculture raisonnée, biologique ou permaculture, et ça c'est vraiment assez alertant parce que c'est justement quelque chose qu'on a vu pas à un seul endroit mais bien partout sur le territoire, en fait les ravages de l'agriculture intensive sur l'éthique animale, sur les questions environnementales, climatiques qu'on connaît, mais même sur le social, en fait, c'est des gens qui sont dans une précarité totale. C'est un système qui rémunère pas du tout les agriculteurs, donc ça, c'est quelque chose de totalement alarmant et d'omniprésent, en fait, partout, qu'on a vu partout, dans le nord, dans le sud, dans l'est et dans l'ouest. Donc, en fait, il y a plein de gens qui ont l'air très étonnés quand on dresse le tableau d'une génération 18-30 ans qui serait désintéressée de la politique, mais on pose jamais la question dans l'autre sens du désintérêt des politiques pour sa jeunesse. Et en fait, nous, on passe notre journée à lire des rapports, les rapports du GIEC notamment, qui parlent d'un changement systémique. Et pourtant, on a un gouvernement et un président qui sont encore en train de parler de fête de la nature, de parler de l'écologie, du pipi sous la douche et des petits gestes du quotidien. Nous, on a envie d'un changement systémique et pour ça, ça passera notamment par les élections mais aussi par la mobilisation dans la rue, sur les terrains de lutte. C'est quelque chose qu'on a vu aussi beaucoup sur notre parcours.
Pierre Taïeb, co-organisateur du Relais Jeune qui arrive donc samedi prochain à Paris. Au générique de cette édition, Antoine Teboul et Louis Audebert en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal. Avec Anne Patinec à la rédaction en chef, assistée de Swad Bellani et Brice Garcia. Un grand merci à l'équipe et merci à vous d'avoir écouté ce journal. La météo dans un instant.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Depuis 30 ans, les experts Euromaster sont au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Jean-Michel Golinski.
Demain, excepté en cours d'après-midi sur le Massif central et les Pyrénées, les orages auront totalement disparu du paysage, avec somme toute des ondées dès le matin près de l'Allemagne et de la Belgique, une instabilité qui va prendre fin à la mi-journée, tandis que par l'océan, c'est justement l'après-midi que le temps va se brouiller, apportant des pluies faibles en fin de journée entre la Bretagne, la Touraine et la Vendée. Ailleurs, temps sec, assez variable sur les régions centrales, mais toujours bien dégagé des Alpes au pourtour méditerranéen. Les températures comprises entre 12 et 14 au lever du jour vont afficher 18 à 24 l'après-midi dans la moitié nord, avec 18 près de la Manche, 20 à Lille, Nevers et Le Mans, 22 à Paris et Nancy, 24 sur l'Alsace, et une fourchette de 25 à 33 prévue dans le sud, avec par exemple 25 sur la Gironde, 26 à Lyon et à Nice, 29 en Midi-Pyrénées, 30 à Bastia et 33 en Basse-Vallée du Rhône.
Jean-Michel Golinski de Météo France.